Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio et en podcast, on va s'intéresser au désenchantement des journalistes français et plus spécifiquement à ceux qui finissent par quitter ce métier passion dont ils avaient souvent tant rêvé. En France, il y a de moins en moins de détenteurs de la carte de presse, moins 10% en une dizaine d'années. On comptait 34 182 journalistes encartés en 2020, ils étaient 3000 de plus en 2009. Alors pourquoi ces journalistes ont-ils quitté la profession? Il y a plusieurs raisons à cela, mais un des marqueurs forts, c'est la précarité. Aussi, l'enquête menée par le sociologue des médias Jean-Marie Charon, rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et par Adenora Pijola, est riche d'enseignements. Tous deux en ont d'ailleurs fait un livre intitulé « Hier, journaliste ». J'ai rencontré Jean-Marie Charon, fin octobre, aux Assises internationales du journalisme de Tours.
RFI.
Ça viendrait à l'idée de personne, je crois, de rentrer dans une boulangerie, de prendre une baguette et de partir sans payer. Alors, pourquoi ça devrait être différent par rapport à l'information?
L'Atelier des médias.
Bonjour Jean-Marie Charon.
Bonjour.
Une de vos premières enquêtes de sociologue des médias s'intitulait « Carte de presse ». 30 ans plus tard, vous êtes lancé à la poursuite de celles et ceux qui ont choisi de quitter la profession de journaliste. C'est cocasse.
Oui, ça peut paraître un peu cocasse et en même temps c'est peut-être un signe des temps parce que c'est vrai qu'à l'époque, le phénomène de journalistes qui quittaient la profession, ça existait certainement, on en connaît tous, mais disons que c'était pas un phénomène massif. Et là, l'idée effectivement, c'est de se tourner vers cette profession pour voir pourquoi un certain nombre s'en vont. Et alors vous disiez que ça fait 30 ans, moi ce qui me frappe beaucoup c'est que justement il y a toute une partie de ceux qui quittent, eh bien, qui n'était pas né au moment où on a commencé l'enquête. Voilà.
Le sujet est parti d'une discussion sur Twitter et les témoignages sont venus à vous. Vous n'avez pas eu besoin de creuser.
Ah, on n'a pas du tout eu besoin de chercher. En fait, le contexte, si vous voulez, c'est qu'on a une étude qui est parue en 2016, faite par un laboratoire de Paris 2 qui disait la profession, la durée de carrière de la profession a baissé, c'est de l'ordre de 15 ans. Et puis, il y a eu le confinement. Et en regardant un peu les discussions sur Twitter, hein, très concrètement, j'ai vu pas mal de cas de journalistes qui parlaient de leur interrogation à continuer de travailler et puis d'autres qui leur disaient « moi je suis déjà parti ». Donc on a dit aux uns et aux autres « c'est un sujet qui nous intéresse, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous voulez qu'on en fasse des interviews ?» Et tous nous ont dit oui. Donc on a rebondi un peu en disant « on vous propose de faire non pas simplement quelques entretiens mais une vraie enquête ». Qui est candidat, quoi. Et en gros, on a eu une soixantaine de réponses positives. On a donné un peu un cadre, c'est-à-dire qu'on a dit on va prendre seulement ceux qui sont partis depuis en gros moins de 5 ans, enfin 5 ans autour, et puis ceux qui sont en train de partir, parce que ça nous intéressait de voir à chaud pourquoi des personnes et comment ça se passait, y compris dans leur recherche d'emploi, enfin des choses comme ça, et quel était le contexte de leur départ. Donc on a sollicité personne, tout le monde est venu à nous, ce qui est un mauvais signe d'une certaine manière.
C'est une vraie enquête de sociologie qualitative que vous avez menée. Vous avez eu une diversité de profils qui s'est présentée à vous et vous avez au final identifié 3 profils types de journalistes qui quittent la profession. J'aimerais qu'on les parcoure ensemble, ces profils. D'abord, il y a les jeunes de moins de 35, voire 30 ans.
Oui, voilà, ce qu'on a appelé les jeunes, et c'était notre grande surprise, c'est presque la moitié de notre groupe. Moins de 35 ans et un certain nombre d'entre eux, moins de 30 ans. Vous vous rendez compte qu'on entre dans la profession autour de 24-25 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes parmi eux, au bout de 5 ans, disent « c'est plus possible ». Pourquoi ? Il y a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est... On a enchaîné un peu, je dirais, les galères, hein, les CDD, la pige, mais une pige qui ne nous permettait pas d'en vivre suffisamment. On a souvent été obligé de cumuler avec des activités non rémunérées, du chômage, d'autres boulots parfois complètement différents. Et au bout d'un certain nombre d'années, certains d'ailleurs nous montrant combien ils gagnaient, des sommes dérisoires, disent on va pas dépendre de nos parents toute notre vie, enfin etc., on arrête, quoi. L'autre cas de figure qui peut paraître assez différent, ce sont des gens qui ont eu la chance d'entrer tout de suite dans les entreprises, quasiment tout de suite avec des CDI, mais on leur a dit, écoutez, vous êtes jeunes, vous connaissez bien le numérique, desk numérique. ou éventuellement édition numérique. Mais et bon, bah, pourquoi pas, ils savaient, les écoles de journalisme les avaient préparés, ils connaissaient bien ce métier sous cet angle-là, mais au bout d'un certain nombre d'années, on a envie de se lever de sa chaise, on a envie d'aller ailleurs, non pas que l'ordinateur soit à rejeter, mais pas que l'ordinateur, pas que des dépêches d'agence à reprendre ou des choses à glaner sur différents sites d'information. Et donc on se tourne vers la hiérarchie, on dit « qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et bien on leur répond bah, « continuez ». Et donc au bout d'un certain nombre d'années, bah, ils s'en vont, quoi. Alors le deuxième groupe, il est très très différent, même si vous me direz les âges ne sont pas très éloignés, ce sont les quarantenaires. Et ceux qu'on appelle les quarantenaires dans notre petit bouquin, là, ce sont d'ailleurs surtout des femmes, d'une manière générale d'ailleurs, hein, petite incise, on a surtout des femmes.
Et alors donc, la profession se féminise d'ailleurs.
Elle est pas encore tout à fait à la parité, donc ça veut dire qu'il y a quand même une surreprésentation dans ceux qui partent ou dans celles qui partent. Et donc ces quarantenaires, ils sont en pleine activité, ils sont surinvestis professionnellement, et c'est trop, quoi. C'est un peu trop pour eux. Ils ont le sentiment que ça s'est intensifié, ils ont le sentiment que parfois c'est assez répétitif, ils ont aussi le sentiment que dans leur poste, c'est parfois très tendu, parfois très dur, et donc il y a des phénomènes d'arbitrage vie privée, vie professionnelle, parce qu'on a besoin, par exemple si on est une femme, on se pose les problèmes de maternité, on se pose, qu'on soit un homme ou une femme, on se pose les problèmes d'élever ses enfants, enfin tout un tas, donc l'arbitrage. Et puis il y a aussi une évaluation de comment les choses évoluent, et là le sentiment que les choses deviennent de plus en plus dures. Et puis aussi, chez les femmes quarantenaires, il y a beaucoup ces questions, le sentiment qu'il y a une discrimination. Discrimination sur les évolutions de carrière, les promotions, ce qu'on appelle le plafond de verre. Discrimination sur les niveaux de salaire. Il y a des statistiques, hein, c'est en gros 15% d'écart entre les hommes et les femmes à niveau complètement équivalent, formation équivalente. Et puis, il y a toutes ces situations dites de harcèlement, et nous, on en a rencontré énormément.
Il y a enfin un troisième profil, ce sont les plus de 50 ans qui, eux, sont souvent épuisés par la machine des médias et par aussi la situation économique et sociale des médias, donc les réorganisations.
C'est ça, ils sont épuisés, c'est la réorganisation de trop, ils en ont un peu trop vu. Ils ont souvent d'ailleurs... Ils sont les moins nombreux hein, dans nos groupes quand même. Ils ont souvent des niveaux de qualification élevés, enfin je veux dire des niveaux hiérarchiques élevés, mais en gros, comme vous le disiez, c'est la réorganisation de trop, sans compter qu'au travers des entretiens, même s'ils ne nous le disent pas toujours très clairement, on sent qu'on les a un peu poussés. Parfois, c'est peut-être on les a un peu fatigués à l'excès, ou ils ont senti qu'on leur indiquait, regardez, il y a un plan social, regardez, il y a... Et effectivement, ils s'en vont. C'est pas simple pour eux de s'en aller, parce que parfois, il y a des plans sociaux, des choses comme ça, une somme d'argent significative, mais quand on les retrouve quelques années plus tard, enfin certains qu'on a pu contacter, qui étaient sortis, je pense par exemple à RFI, où il y a eu des plans sociaux déjà il y a quelques années, eh bien c'est pas facile, quoi. Ils n'ont pas retrouvé de boulot, ou alors ils font des choses qui sont à la fois intéressantes pour eux, comme de l'éducation aux médias, des choses comme ça. Ça les motive, parfois c'est aussi des professions artistiques, ça les motive, mais financièrement c'est compliqué, quoi.
Jean-Marie Charron, sociologue des médias, on parlait des jeunes tout à l'heure, on quitte la profession de plus en plus jeune et il y a un marqueur souvent chez les jeunes qui quittent la profession, c'est la situation de précarité. On ne roule pas sur l'or quand on est journaliste, contrairement à ce que certains peuvent croire, et vous avez identifié, vous dites en gros au moins un journaliste sur trois qui se retrouve à travailler est dans une situation de précarité, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Les statistiques de la profession, la commission de la carte, disent plutôt 1 sur 4. Mais comme on sait, et on le voit beaucoup dans l'enquête, qu'un certain nombre de jeunes journalistes sont obligés de travailler sans carte, parce qu'on leur demande de travailler sur des statuts d'auto-entrepreneurs, ou s'ils sont dans l'audiovisuel, ça va être avec des CDDU, donc plutôt des statuts d'intermittents. Parfois, on les oblige à travailler sur du droit d'auteur. Enfin, il y a tout un tas de configurations comme ça. Et effectivement, je pense qu'on est plutôt autour d'un 1 sur 3. Et là, c'est un phénomène qui s'est accru. Et alors, ces questions de précarité, parce que souvent, on a une image du pigiste, et notamment avec certains médias très reconnus, avec qui font des belles choses, comme de grandes enquêtes. Je pense à 21, par exemple, un certain nombre de MOOC. Mais aussi, on connaît ça aussi dans le documentaire. Hein, on voit un certain nombre d'émissions intéressantes en télévision. Et là, on ne voit pas toujours que ces statuts d'indépendants, entre guillemets, de journalistes très, très autonomes, ça se paye quand même assez cher financièrement. Surtout lorsque, par exemple, on a le cas de photographes qui vont travailler aux États-Unis à un moment donné et qui sont obligés... la photographie, c'est toujours quasiment la précarité, hein, et qui sont obligés à 30, 40 ans de dépendre encore de leurs parents. Vous voyez, donc on a aussi ce genre de situation. Pour vous donner une image, on a obtenu par Audience, qui est la mutuelle, hein, qui s'occupe des journalistes, on a obtenu la hiérarchie des salaires pour les pigistes. On a quand même 20% de pigistes qui sont à moins de 1000 euros par mois. C'est un métier dans lequel on entre à bac plus 5. C'est un métier où il faut souvent être en région parisienne pour l'exercer. Comment peut-on vivre avec, et c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs, hein, comment peut-on vivre avec moins de 1000 euros Donc voilà, c'est effectivement, je pense que c'est. On a rencontré ça. Mais même si, et c'est quand même à relever, même si tout ça, effectivement, c'est le background du départ, hein, mais ce qu'on nous dit d'abord, c'est pas ça. Ce qu'on nous dit d'abord, c'est je quitte la profession. Parce que c'est une profession passion pour moi. J'y ai pensé depuis l'adolescence, parfois depuis l'enfance. Et décidément, c'est pas ça. Le contenu de ce que je fais, c'est vraiment pas ça. Donc c'est le choc, ce que certains nous disent, profession rêvée, profession réelle. Et quand on demande, quand on va un peu plus loin, ils nous disent, il y a une perte de sens. Ce qu'on nous demande, nous, on a voulu faire cette profession parce que c'est une profession qui va vers les autres, parce que c'est une profession qui a un rôle social important, qui permet à la société et surtout à la démocratie de vivre. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est pas ça. On nous demande des choses beaucoup trop superficielles, on nous demande des choses beaucoup trop redondantes, on n'a pas le temps de travailler sur le fond, ou on n'a pas les moyens, je dirais, y compris d'en vivre, quoi.
Jean-Marie Charron, vous avez mené ici une enquête sociologique qualitative et vous me disiez l'an dernier travailler aussi à une enquête quantitative. Va-t-elle avoir lieu ?
Je n'en sais rien, je l'espère. Pourquoi a-t-on fait un livre ? Parce que quand on est parti sur ce projet d'enquête, comme tout chercheur, on était plutôt sur des idées de quelques de colloques, d'articles. Et en fait, c'est en se tournant vers d'autres personnes que les journalistes et anciens journalistes que nous interviewions, qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pousser un peu les murs. Parce que quand on s'est tourné vers les rédactions en chef, vers les RH, vers parfois les syndicats de journalistes, les associations de journalistes, on s'est rendu compte qu'on était quand même beaucoup face à du déni. Ou en tout cas, une certaine forme, vous exagérez, ça a toujours existé, c'est pareil dans d'autres professions. Enfin, il y a toute une série comme ça de... Et quand on s'est tourné vers la commission de la carte, en leur disant, est-ce qu'on pourrait obtenir des chiffres, des statistiques ? Ils nous ont dit, oh, c'est trop compliqué, on n'a pas les outils pour, etc. Donc, ce livre, honnêtement, c'est une alerte. Et cette alerte, on espère que... Ça va pousser à la fois les syndicats, peut-être certaines organisations patronales, peut-être le ministère, hein, la tutelle, qui est censée quand même suivre le secteur, de dire le qualitatif c'est bien, mais regardons très concrètement jusqu'à quel point ça représente quelle proportion de journalistes est aujourd'hui ou d'anciens journalistes. J'aimerais bien savoir chaque année combien part. Voilà.
Vous dites que ce livre est une alerte. Le lanceur d'alerte que vous êtes, pense-t-il pouvoir un jour être entendu ?
Oui. Enfin, j'espère. Autrement, je ne le ferai pas. Oui, oui.
Merci Jean-Marie Charron, sociologue des médias rattaché à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS, à Paris. Votre livre, co-signé avec Adenora Pijola, est intitulé « Hier, journaliste » et sous-titré « Ils ont quitté la profession ». Il vient tout juste de sortir aux éditions Entremise. À bientôt dans l'atelier des médias.
À bientôt.
Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. conduite avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre, je lui dirai les mots bleus, ce qui rend de les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Monde Blog Audio qui fait entendre la voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Samedi 16 octobre, c'était la journée mondiale de l'alimentation. La Monde blogueuse Clara Delcroix se présente comme étant de la génération Z. Comprenez qu'elle est née entre 1995 et 2010. Elle nous propose une plongée dans les habitudes alimentaires des jeunes de son âge.
En ce qui concerne l'alimentation, la Gen Z a des attentes différentes des générations précédentes. Leurs tendances alimentaires sont assez marquées. Pour connaître ce que la Gen Z mange, c'est très simple. Vous prenez votre smartphone et vous ouvrez Instagram. C'est vrai que dans les médias sociaux, on en voit passer beaucoup des photos de nourriture. Les 12-25 ans s'y retrouvent et les images qu'ils publient parlent d'elles-mêmes. On peut dire que la Gen Z est plutôt douée pour jongler. Elle navigue entre deux mondes. Elle veut de la cuisine healthy, qu'elle sait rendre attractive, loin du fade et de l'ennuyeux, avec des salades, des smoothies, des fruits frais. Mais elle se passionne aussi pour les aliments transformés, hyper gras et sucrés. Une pizza qu'on se partage avec de longs fils de fromage, des frites ou un gros gâteau dégoulinant de chocolat et de crème. Les Gen Z en sont fada. Même s'ils ont aussi conscience que dans Malbouffe, il y a mal. Cette malbouffe est en quelque sorte la chose qui fait rêver, mais qu'ils ne vont pas pour autant consommer, ou seulement de façon exceptionnelle, lors de soirées entre amis. Les jeunes aiment se faire plaisir en mangeant, mais font quand même attention à leur ligne. Les Z mangent plus de produits frais, ils sont attentifs au suivi des ingrédients et à leur provenance, et privilégient les circuits courts. Ils veulent aussi plus d'aliments biologiques et sans additifs. Ils sont nombreux à vouloir se tourner vers un régime alimentaire différent. Le flexitarisme, le végétarisme, le véganisme, toutes ces nouvelles pratiques alimentaires qui innovent participent à l'argument santé, mais aussi à la sensibilisation pour le développement durable de la planète. Parce que la Gen Z a été nourrie au slogan des 5 fruits et légumes par jour depuis sa naissance et parce qu'elle a été bombardée d'informations sur les scandales alimentaires, elle représente une génération engagée, soucieuse de revenir à une nourriture saine, naturelle, dans le respect de soi et de la planète.
How dare you ?
D'ailleurs, les jeunes sont nombreux à accepter de payer plus cher pour une nourriture de qualité. Pour moi, il est aussi évident que les jeunes de la génération Z préfèrent le fait maison. Ces jeunes n'hésitent pas à mettre la main à la pâte, ils aiment cuisiner. Le repas homemade fait son grand comeback, on prépare des repas simples et rapides et on apporte sa lunchbox ou son bento au lycée ou à l'université plutôt que de manger à la cantine. C'est meilleur et c'est plus sain, on sait ce qu'on a mis dedans, c'est plus équilibré et on mange ce qu'on aime. En plus, on peut manger où on veut et quand on veut. En général, les Z ne sont pas trop resto, ils préfèrent la nourriture à emporter. Et là, les Z deviennent très ouverts à l'international. Cuisine indienne, mexicaine, japonaise, tapas, sushi, elles succombent aussi au mode de l'internet. Smoothie bowl, gravity cake, overnight oats, raindrop cake, etc.
Non, ou alors c'est moi, c'est...
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Les Z aiment le local et le fait maison, autant que la découverte de saveurs lointaines, pourvu que ce soit sain et respectueux de l'environnement, avec quelques exceptions pour le plaisir assumé du goût gras et sucré. Voilà mon petit aperçu du futur de l'alimentation avec la génération Z. Alors, on passe à table ?
Mondoblog.org.
C'était la mondoblogueuse Clara Delcroix du blog Pure Génération Z. Merci à elle de s'être déplacée dans les studios de RFI pour enregistrer et à Camille Deloche qui a supervisé le tout. C'est la fin de cette émission réalisée cette semaine par Simon Decreuse. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, je vous rappelle qu'il est disponible à l'écoute en podcast avant même sa diffusion à la radio. Pour en profiter pleinement, n'oubliez pas de vous abonner sur l'application de votre choix, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Vous pouvez m'écrire à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.